Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Jessica Baudet.
Bonjour à tous. Nos enfants regardent de plus en plus la télévision. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par Médiamétrie en février dernier. Les jeunes Français passent plus de 3 heures par jour devant leur petit écran quand la télévision n'est pas leur principale distraction. Par ailleurs, et c'est un fait marquant de notre société, la violence en milieu scolaire est en constante augmentation, comme l'a montré le rapport Debardieu. Des jeux curieux ont fait leur apparition dans les cours de récréation, le jeu du foulard ou le jeu du CRS qui consiste à donner des coups à un camarade sans raison particulière. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de diaboliser le petit écran, mais il semble intéressant peut-être de s'interroger sur la manière dont la télé conçoit ses programmes et la perception qu'en ont les plus jeunes, mais aussi leurs aînés. La télévision alimente-t-elle l'insécurité sociale? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec nos invités. Geneviève Guichenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médiatrice des programmes de l'ensemble des chaînes de France Télévisions depuis 98.
Je viens de terminer mes deux mandats, je l'ai été pendant 6 ans et je viens de passer le témoin, la médiation continue.
D'accord, en tout cas c'était une mission que vous avez confiée Marc Tessier. Vous êtes donc une interlocutrice privilégiée de la manière dont fonctionne la télévision en France. À vos côtés, je suis ravie d'accueillir Serge Tisseron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et auteur d'un livre « Enfants sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents ?» publié aux éditions 10-18. Alors aujourd'hui, la fiction policière occupe une bonne place dans la grille des programmes des chaînes hertziennes. Est-ce qu'il y a une raison économique à cela, Geneviève Guichenet ?
Oui, parce que c'est considéré, enfin là je répète, parce que je n'ai pas de compétences particulières, ne faisant pas moi-même de fiction policière, c'est un moyen commode d'arriver à pénétrer toutes sortes de milieux, toutes sortes de situations, sans avoir besoin d'exposer, de dire « Ah voilà, aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui se passe ici et là. »
Comme je viens de le faire.
Et le crime est une façon pratique d'entrer immédiatement dans une situation de crise, parce qu'après, on va essayer de reconstituer. Et au fond, on peut reconstituer ce qu'on veut. Si on trouve très rapidement le coupable, la longueur de la fiction va dépendre de la facilité avec laquelle on va résoudre l'énigme. Donc on peut jouer en accordéon et bon. C'est aussi ce qui, semble-t-il, s'exporte le mieux. Néanmoins, je remarque en les regardant que les fictions portent la marque du pays dont elles sont originaires. Il n'y a rien de commun, me semble-t-il, entre Navarro, je prends un exemple sur une chaîne privée, Derrick, ou l'inspecteur britannique. C'est Derrick est terriblement allemand, l'autre inspecteur est terriblement britannique et Navarro est terriblement français. Donc, ce qui est plus problématique selon moi, c'est la prolifération des fictions américaines en particulier, pour leur effet de dépaysement. Ce n'est pas, je ne veux pas faire de l'anti-américanisme primaire, je veux dire que j'évacue immédiatement cette critique. Simplement, je crois qu'à multiplier les références d'ailleurs, cette espèce d'exotisme imposé à longueur d'après-midi en particulier, je crois que dans ce système de représentation qu'est la télévision, je pense que nous y reviendrons au cours de l'émission, il est ennuyeux de ne jamais s'y retrouver.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi une raison de coût pour la télévision, puisque en fait, l'achat d'une fiction coûte moins cher que
oui,
la production d'une
oui.
émission de
sûrement,
plateau.
Sûrement, mais il y a des émissions de plateau qui ne coûtent pas cher non plus. On pourrait. Il y a toute une conception du téléspectateur et de le téléspectateur, ce qui est absurde parce qu'il y a des téléspectateurs, mais sur ce que on lui offre, on fait semblant d'être dans une demande, ce qui n'est pas vrai, car la télévision hertzienne est une télévision de l'offre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une quantité de téléspectateurs qu'on passe littéralement par profits et pertes. Et je trouve ça un élément d'insécurité sociale. On pourra raffiner un peu là-dessus tout à l'heure.
Alors, quand on analyse le contenu justement de ces fictions, le téléspectateur visionne parfois jusqu'à 10 scènes de violence par heure. C'est en tout cas ce qui ressortait de l'étude sur les effets de la violence médiatique sur les enfants, étude qui avait été réalisée par l'UNESCO en 1998. D'autres études ont montré que ces images provoquaient des effets physiologiques immédiats. Lesquels, Serge Tisseron ?
Les effets que provoquerait tout stress émotionnel important. Si vous regardez un dessin animé plaisant et que tout d'un coup il y a un pétard qui explose derrière vous, vous avez un accroissement de votre rythme cardiaque, une montée de votre adrénaline, une respiration accélérée, et puis vous vous demandez ce qui se passe et vous ne retombez sur vos pieds que quand vous avez compris ce qui est arrivé. Eh bien, les spectacles qui juxtaposent des scènes de violence provoquent le même effet chez le spectateur. Et vous voyez que si je prends la comparaison avec le pétard, on pourrait dire aussi une porte qui claque ou une fenêtre qui claque, c'est plus banal. Si je prends cette comparaison, c'est pour montrer que ce qui va être important à partir de ce moment-là, c'est la manière dont le spectateur va donner du sens, va pouvoir ou non donner du sens à cette séquence qu'il a émotionnellement bouleversée. Il ne faut pas en rester au choc émotionnel, parce que nous sommes des êtres humains et que ce qui caractérise l'être humain, c'est quand il est émotionnellement ému, eh bien, il cherche à donner du sens à ce qui lui est arrivé, éventuellement en cherchant dans sa mémoire, mais aussi en parlant autour de lui, en posant des questions. Et vous voyez que tout de suite, on arrive à l'idée qu'il n'y a jamais un spectateur et des images, mais il y a toujours un spectateur, des images, et puis bien sûr, son environnement, proche ou lointain, sa famille, ses copains, si c'est un enfant, et on va être amené justement à parler de tous ces éléments, et pas seulement des images.
Alors justement, la fréquence des scènes violentes est une chose, mais ce qui me paraît intéressant, c'est aussi le contenu de ces scènes, notamment dans la manière dont elles sont filmées aujourd'hui, alors que dans les années 80, un truand s'effondrait après avoir reçu une balle dans le corps. Aujourd'hui, on ne se contente plus de cela. On voit le projectile sortir au ralenti du pistolet. Après, on suit sa trajectoire avant d'assister à une effusion de sang. Donc, quelles sont les raisons de cet hyper-réalisme, de cette surenchère émotionnelle à la télévision qui n'apporte pas réellement de valeur supplémentaire à la narration, Geneviève Guichenet ?
Je ne sais pas dire pourquoi. D'abord, d'un pays à l'autre, ça varie parce que... Puis il y a des modes de réalisation. Le ralenti, au contraire, des ellipses. En France, on a la réputation que quand on monte dans une voiture, on ouvre la portière, on s'assied et on referme la portière et on démarre. Ça fait rire beaucoup des réalisateurs anglais, par exemple, ou américains, parce qu'une fois qu'on s'approche de la voiture, on peut retrouver le type au volant après. Voilà, on est, en somme, bavard avec l'image, mais... je ne sais pas, peut-être aussi on gagne du temps, hein, ça ne coûte pas plus cher. Et ce luxe de détail, je ne sais pas, Serge Tisseron sans doute pourrait en dire davantage sur ce que ça fait.
Il viendra après.
Oui. Moi, c'est pas tellement ça qui me préoccupe, parce que je sens bien que vous évoquez le nombre de scènes violentes. Un jour, un réalisateur m'a dit « Oui, mais à combien de scènes d'amour un enfant a-t-il assisté aussi ?» Et on est absolument obsédé par les coups de poing. Mais je trouve que on ferait bien de regarder à côté des coups de poing, parce qu'il se passe aussi beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et je pense que les scènes en particulier... les scènes d'amour à des heures où les enfants sont devant l'écran, je pense que ça, c'est pas simple pour les tout petits enfants. Et on a l'air de trouver ça tout à fait normal dans des feuilletons dans lesquels ça n'ajoute rien. Le ralenti de la balle, je n'en sais rien, mais bon, à partir du moment où un pistolet est sorti ou un truand va tomber, d'abord c'est un truand, c'est un monsieur méchant et qui a mal agi, donc la morale est sauve là. En revanche, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'arriver à décoder un certain nombre de choses. Je suis frappée par la campagne actuelle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'instance de régulation française, française qui dit « Vos enfants ne voient pas la même chose que vous ». C'est vrai, là je soumets mon point de vue à Serge Tisseron, néanmoins je pense que le problème vient du fait que vos enfants voient la même chose que vous. C'est là que ça coince, et parce que les enfants et les adultes n'ont pas à regarder la même chose. Alors qu'ils le vivent, qu'ils le ressentent différemment, ça me paraît évident, mais je ne comprends pas que des adultes ne se disent pas, ne se demandent pas si on peut à chaque moment tout montrer tout le temps. Et la télévision, elle a la particularité d'être au cœur des foyers, c'est-à-dire qu'elle est accessible simplement en appuyant sur un bouton. Et il faudrait quand même se poser des questions sur ce que l'on met comme ça à la disposition des gens. Et je crois que on leur fait beaucoup de mal en donnant l'impression que, juste ou pas d'ailleurs, les gens de télévision ne se demandent pas tous les matins en se levant ce qu'ils vont bien pouvoir faire pour nuire dans la journée. Néanmoins, beaucoup de téléspectateurs, dont j'ai été l'interlocutrice pendant 6 ans et qui voient bien ce qui se passe, ont l'impression qu'on ne fait pas attention à eux. C'est ça l'impression principale qu'ils retirent de ce qui se passe sur les écrans.
Oui, sur cette nouvelle esthétique, il faut aussi évoquer quand même l'arrivée de codes culturels différents, en particulier venus des pays orientaux, et la décomposition d'une action avec plusieurs plans successifs qui montrent la même action vue par en dessus, vue par en dessous, à droite, à gauche, au ralenti. Tout ça, c'est l'esthétique du manga. Et l'esthétique de la bande dessinée, aujourd'hui, je constate qu'elle est très importante chez des jeunes réalisateurs, au cinéma, à la télévision, et elle crée de nouveaux codes dans lesquels les jeunes se retrouvent assez vite et dans lesquels les gens de plus de 50 ans, disons, ont de la peine à se retrouver. Un film comme Doberman, par exemple, est un film qui a été incendié par les critiques comme un film fasciste. Et c'est vrai que si on s'en tient au récit de l'action, c'est abominable. Mais quand on voit le film, je suis allé le voir quand même pour me faire une opinion personnelle, quand on voit le film, on voit une bande dessinée animée qui n'est crédible à aucun moment. Or, les jeunes qui allaient voir ce film étaient très sensibles à l'aspect BD. Ils étaient contents de retrouver l'atmosphère des BD, mais ça bougeait pour de vrai, si on peut dire. Alors que les gens d'âge mûr étaient plus sensibles à l'aspect contenu narratif. Donc, vous voyez, il y a là de nouveaux codes culturels dont il est important de prendre la dimension. La même chose avec Kill Bill, où il y a un côté bande dessinée qui est insupportable si, justement, on essaye de raconter les choses, parce que là, on est dans la narration, vous voyez, on n'est plus dans la figuration BD. Alors, une autre chose importante également qu'a évoqué Geneviève Guichenet, le fait que les enfants ne voient pas la même chose que nous, bon, on pourra prendre le slogan du CSA, mais les adultes ne voient pas non plus la même chose que les enfants, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas plus fragiles, a priori, que les adultes, mais ils ont une perception différente des choses. On voit ça. Moi, je vois beaucoup j'interviens dans des classes autour des actualités télévisées, des enfants grands, des enfants plus petits, et on s'aperçoit que les mêmes actualités peuvent bouleverser un adolescent ou un jeune adulte, par exemple, parce qu'on y voit un soldat qui tue en temps réel, si on peut dire, un personnage qui meurt réellement sur l'écran pendant le temps de la séquence, alors qu'un enfant tout petit ne sera pas du tout bouleversé par ça, parce que ça ne lui parle pas, il n'a pas de repère, mais il pourrait être bouleversé par une chaussure écrasée par Hannibal. Je veux dire, Hannibal le cannibale, personne n'a voulu imiter ce qu'il fait parce que, de toute façon, il fait des choses tellement extraordinaires et dans un climat tellement étrange que jamais personne n'aura réuni toutes les conditions pour faire comme lui. Donc, il y a des criminels pervers comme Hannibal le cannibale qui sont mis en scène de telle façon qu'il y a une distance entre le spectateur et eux. Hein, c'est la distance de tous les événements un peu hors normes dans lesquels le héros évolue. Mais vous avez malheureusement des criminels pervers qui évoluent dans un environnement quotidien. C'est le cas des films Scream, qui mettent en scène criminels pervers dans un environnement où tout adolescent peut reconnaître son école, son quartier, même sa famille. Et ça, ce sont des personnages, des héros extrêmement dangereux, parce que vous voyez qu'ils brouillent les repères et ils peuvent donner l'impression à des enfants que faire souffrir, ça fait du bien. Ça ne fait pas du bien à celui qui souffre, mais ça fait du bien à celui qui fait souffrir.
Justement, alors de regarder toujours ce même type de film avec un scénario quasi identique, est-ce qu'il n'y a pas un risque de banalisation de la violence et une sorte de désensibilisation des jeunes dans justement le fait d'assister toujours à ces mêmes scènes de violence, Serge Tisseron ?
Alors le mot de sensibilisation, en effet, a été introduit par les Américains pour désigner le fait que peut-être certains jeunes, à force de voir des images violentes à la télévision, finiraient par ne plus éprouver grand-chose à cette violence et en s'habituant à la violence à la télévision, ils pourraient s'habituer à la violence pour de vrai s'ils la voyaient autour d'eux. Alors en revanche, on s'aperçoit quand même que les choses sont plus compliquées. Je crois que ce qui est déterminant, c'est pas le fait qu'un enfant voit beaucoup de scènes de violence à la télévision, parce qu'on s'aperçoit que tous ne réagissent pas de la même manière. Ce qui est important, c'est la manière dont l'environnement réagit. Dire si les parents, si les grands frères ou sœurs manifestent des émotions, manifestent leur dégoût face à certaines scènes, l'enfant petit ne s'y habituera jamais. Parce qu'il continuera à rester sensible à ses émotions. Le drame, c'est que lorsqu'un enfant voit ses spectacles avec des adultes qui semblent ne rien éprouver, ce qui est malheureusement souvent le cas, eh bien l'enfant se fabrique l'idée qu'être grand, c'est être capable de voir des choses horribles sans rien éprouver. Donc vous voyez, il n'y a pas désensibilisation de façon automatique, parce qu'on voit beaucoup de violence, mais il y a en quelque sorte effort de l'enfant sur lui-même pour se désensibiliser, dans la mesure où il a l'impression que les adultes ne réagissent pas. C'est pour ça que je dis toujours que le principal conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de montrer leurs émotions face aux écrans. Au cinéma, c'est difficile, parce que si on manifeste, les gens disent « chut, taisez-vous, laissez-nous tranquilles ». Mais devant la télévision, il faut absolument manifester ses émotions pour que nos enfants grandissent en intériorisant l'idée qu'être grand, c'est montrer ses émotions, parce que c'est normal d'éprouver du dégoût, de l'horreur, face à ce qu'on voit aux actualités ou dans les fictions.
On marque une courte pause.
Vous écoutez Canal Académie. Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission consacrée donc à la violence à la télévision et aux conséquences sur les jeunes en particulier, Geneviève Guichenet.
Oui, je voudrais rebondir sur ce que disait à l'instant Serge Tisseron. Je crois que dans cette focalisation sur la violence à l'état pur, il y a une part de la mauvaise conscience des adultes. Je pense que le phénomène est assez compliqué de la part des institutions. C'est vrai que le Conseil supérieur de l'audiovisuel est mal à l'aise de ne pouvoir rien dire et rien faire face à la violence, face aux scènes violentes de la télévision, car rien dans la loi, qui est le seul instrument dont il dispose pour intervenir contre les chaînes, rien dans la loi ne les aide vraiment à lutter contre, et enfin ce serait compliqué du moins. Pour ma part, je fais une distinction importante entre ce qui est violent et ce qui fait violence. Et je crois que le problème à la télévision, c'est ce qui fait violence. Et ce qui fait violence, la télévision, elle maîtrise ses conditions de fabrication, ses conditions de production, ses conditions de diffusion. Elle ne maîtrise d'aucune manière les conditions de réception. Et c'est là que tout se passe. Dans quelles conditions sont-ils? De quelle humeur sont-ils? Ce qui concerne les enfants, sont-ils seuls, pas seuls? Et qui les accompagne? Ce qui me frappait dans ce que Serge Tisseron racontait là à l'instant, je me disais finalement, les enfants pensent aussi que jamais on ne raconte de jolies histoires. Que penserait-on de parents qui ne raconteraient que des histoires horribles à leurs enfants? Et des histoires où il y a plus ou moins réparation. Et on invente, j'ai l'impression finalement, en l'écoutant, je me disais, les personnages pervers là qui alimentent tout un tas de fictions, ce sont des loups-garous. On a réinventé une forme de loups-garous, mais il n'y aurait plus que ça, que des histoires de loups-garous. Et on a quand même des surprises. Par exemple, je suis allée dans une école à Fresnes, et une petite fille a dit « Moi, je n'aime pas le Loft, la première émission de télé-réalité en France. C'est trop regarder dans la vie des gens. » 8 ans. Et quand je suis venue, elle a poursuivi là-dessus. Et je voyais bien cette petite fille, vous savez, cet air inquiet que peut avoir un enfant, soit tout d'un coup mis dans la situation d'être eux-mêmes des veilleurs pour faire attention, pour protéger leurs enfants contre la télévision. Et eux-mêmes alors. Parce que finalement, ils ne sont pas mieux lotis que les enfants. Simplement, là, tout d'un coup, on a un relais très pratique. On va dire aux parents, ah, dites donc, il faut quand même surveiller vos enfants. Et on a envie de dire à la télévision, attendez, est-ce que vous pourriez surveiller ce que vous mettez à l'antenne, s'il vous plaît?
Alors justement, vous me permettez une très bonne transition. Partons d'un exemple très concret de programmation. Vous disiez tout à l'heure, Geneviève Guichenet, que la télé maîtrisait ce qu'elle diffusait. Alors, on prend l'exemple d'M6, samedi soir dernier. Voilà ce que propose la chaîne à 20h30. En prime time, le téléspectateur est invité à regarder la série Dead Zone, dont le titre résume déjà lui seul le contenu violent de cette fiction américaine. À 23h25, c'est au tour de la série Les Chemins de l'Étrange d'être diffusée, donc là, rien de spécial à signaler. Mais par contre, vers 1h, c'est-à-dire à peu près là où va s'achever cette soirée...
C'est l'insécurité sociale et je crois qu'il y a quelque chose qui fait terriblement violence aux téléspectateurs. C'est par exemple... Reprenons cet exemple du Loft. Maintenant, il y a quasiment prescription depuis le temps. Et d'autant que cette forme de télé-réalité est quasiment abandonnée. Mais moi, je trouve qu'il y avait quelque chose de très moral au regard des valeurs que l'on veut bien partager actuellement dans la société française. Enfin, qui sont les valeurs dominantes, du moins. Je trouve que la hiérarchie sociale a été parfaitement respectée, que comme par hasard, ce sont ceux, en effet, auxquels on s'attendait qui ont été virés les premiers. Et dans l'engouement que la jeunesse a manifesté à l'égard de cette émission, moi, je l'ai regardée pour me faire une idée et je me suis surprise en train d'avoir peur pour les jeunes gens qui étaient là-dedans. Et je me suis dit, peut-être eux aussi ont peur de voir cette chair à canon cathodique qui assure le spectacle. Moi, si j'étais Loana, je ne jure pas que je ne serais pas allée dans le Loft. Quand on vous fait miroiter que tout d'un coup, il va se passer quelque chose dans votre vie.
Bien sûr.
J'interdis à qui que ce soit de mépriser cette jeune femme. On lui a donné une possibilité de le faire. Et voilà. Mais du coup, ils ont pris une forme de risque en y allant. C'est pas des enfants de cœur non plus, hein, parce qu'il faut avoir un culot de tous les diables pour aller là-dedans, mais aussi une forme de désespoir. Je crois que c'est très très mélangé. Et là, moi je pose la question de ça. Ça, c'est une autre forme de violence, et je pense que l'insécurité sociale, elle vient bien plus de la violence symbolique, c'est-à-dire en effet des risques qui sont pris ou que l'on fait prendre à certains individus. Quelle impression cela leur donne-t-il? Qu'est-ce que cela leur fait? Quand je lis, par exemple, sous la plume d'un jeune homme, ce qui m'a surpris, c'est qu'il flippait avec les mecs de quartier. Entre parenthèses, comme quoi les médias font bien leur boulot. C'est pas de la violence symbolique, ça, et c'est pas, et ça, c'est pas de l'insécurité sociale.
Bien
ce
sûr.
Garçon au service militaire passe son temps à raconter qu'il était étiqueté mec de quartier. Et qu'il y a eu des moments où ça lui a fourni certains avantages parce qu'il y en avait qui avaient la trouille. Et il n'a rien fait pour les démentir, alors que lui, personnellement, n'est pas violent. Mais il est arrivé là-dedans, venant de la banlieue lyonnaise, il était dans le Midi, et il a vu qu'on avait peur de lui.
Restons d'ailleurs sur l'exemple de France Télévisions. L'année dernière, Jean-Claude Alanic, le médiateur de l'information pour France 2, avec lequel vous avez eu l'occasion de travailler, Geneviève Guichenet, mentionnait dans son rapport annuel adressé à Marc Tessier, le président de France Télévisions, les critiques les plus fréquentes des téléspectateurs. Et parmi elles, ils étaient nombreux à regretter l'importance réservée aux faits divers et aux images violentes dans les JT. Quelles sont les raisons de ce choix éditorial ? Parce qu'il s'agit bien d'un choix éditorial, quoi qu'en disent les journalistes, Geneviève Guichenet.
La télévision n'échappe pas à son époque. Là, je crois qu'on n'a pas fini d'explorer ce qui se passe. Et simplement, ce que l'on peut constater, c'est que tout le monde souffre. En ce moment, tout le monde souffre. Oui. Globalement, les enquêtes montrent que les téléspectateurs sont mécontents de la télévision. Mmh. Et c'est intéressant qu'ils le disent comme ça. Parce que dans le même temps, la télévision a tendance à dire « Oui, mais moi, je m'en fiche, ils regardent. » Donc, le hiatus, c'est entre le fait que précisément, ils regardent quand même et qu'ils souffrent de ce qu'ils voient. Moi, je pense, mais ça, c'est une analyse très personnelle, que la démocratie recule, que l'on ne met pas en perspective les événements, que on est dans ce que j'appellerais la télévision du plexus, qu'on passe son temps à donner des émotions violentes aux téléspectateurs. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a des moments où on est complètement suffoqué. Dans la hiérarchie de ce que les téléspectateurs avaient trouvé violent à la télévision, il y avait le Proche-Orient, et ensuite la fermeture d'une usine dans le Nord.
Et oui.
Et alors là, les journalistes ont regardé ça en disant « Mais attendez, je ne comprends pas très bien. Il y a eu des bagarres, il y a eu une intervention de la police. »
Nikéenne, voire binaire des événements. Quelles sont les conséquences sur l'ouverture à l'autre, peut-être la notion d'altérité et de tolérance, Serge Tisseron ?
Oui. D'abord, il faut quand même remarquer que lorsque une chaîne diminue la violence de ses programmes, comme ça a été le cas aux États-Unis, elle tente à perdre des téléspectateurs qui se reportent sur des chaînes où il y a des programmes violents. Alors, est-ce que les gens cherchent la violence ou les émotions fortes ? Ça, c'est une question intéressante parce que la télé-réalité est une forme de télévision qui impose de la violence aux candidats. C'est certain, cette violence ne passe pas par des coups, des tortures, mais ce sont quand même des formes de violence. C'est une télévision qui est quand même pas mal regardée et je crois que c'est une télévision qui est regardée parce que après leur journée de travail, qui est souvent monotone pour beaucoup de gens, beaucoup de gens ont envie d'éprouver au moins pendant les deux dernières heures avant d'aller se coucher, des émotions un peu fortes, de la jouissance, de l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse. Et donc, la télé-réalité, comme les fictions violentes, vont apporter.
Canal Académie.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie répond à la question « Faut-il faire confiance aux historiens ?» Quelques exemples de communication, « Les historiens et la légende noire du Second Empire », Sacha Guitry et les historiens, « Peut-on faire confiance aux historiens de la médecine ?» Les archives nationales, Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Canal Académie. On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission consacrée à la violence à la télévision et aux effets donc sur le jeune public. Serge Tisseron, vous évoquiez à l'instant justement le fait que les images violentes pouvaient d'une certaine manière fragiliser ceux qui l'étaient déjà. Et ce qu'on dit peu, moi je trouve aussi à la télé, c'est que le reportage est le fruit quand même d'une vision personnelle. Souvent les journalistes se défendent en disant « nous, on reflète, nos reportages reflètent exactement le monde tel qu'il est ». Or, très souvent, c'est absolument pas le cas, puisqu'on sait qu'on choisit un angle et on choisit donc de développer cet angle. Cet angle est un choix personnel, donc c'est une vision subjective. Et justement, est-ce que certains chefs de service ne poussent pas à la télé, justement les reporters en particulier, à la surenchère d'images choc?
Je ne vis pas dans une rédaction, donc je ne me permettrai pas de dire ce qui s'y passe. Mais on sent aussi que beaucoup de journalistes ont anticipé et anticipent sur ce qu'ils croient qu'on attend d'eux. Le monde est moins insécuritaire, la société française en tout cas est moins insécuritaire qu'elle ne l'a été par le passé, ne sans compter en effet
d'époque médiévale.
Voyant les mystères de Paris, enfin vraiment, voilà, le nom des rues dans le centre de Paris, la rue de la Grande Truanderie, la rue Vide-Gousset, on sent qu'on ne s'y promenait pas quand même en toute sécurité, et on ne sortait pas le soir dès qu'il faisait nuit, en hiver les soirées étaient très longues. Non, moi j'ai été très frappé l'autre jour en voyant un documentaire qui va bientôt être diffusé sur France 2, des personnes âgées qui se barricadaient chez elles dans une cité difficile, et le journaliste dit « mais vous avez été agressée maintenant que vous mettez cette porte ?»« Non, non, dit la dame, moi non, jamais, et ça fait 30 ans qu'elle habite là. » Mais elle pense qu'elle pourrait. Et là, il y a une mission de l'État qui serait de prendre une sorte d'engagement. Et on peut remarquer au passage que lorsque, par exemple, on leur donne l'Odyssée de l'espèce, lorsqu'on leur donne Homo sapiens, lorsqu'on leur donne un certain nombre de programmes, ils sont là, ils les regardent et ils sont très contents.
Ouais. Donc, c'est un grand changement d'ailleurs, ça. C'est un changement notable à la télé, je trouve. Oui,
effectivement. Et là, l'audience est là, donc il faudrait savoir. On dit que les téléspectateurs ont un goût épouvantable, et il se trouve que quand on leur raconte en plus leur histoire, l'histoire
sûr,
de l'humanité, ça les passionne. Ah oui, ben voilà, on n'en tire pas
de conclusion. C'est pas une découverte nouvelle, parce que quand Alexandre Niouvski passait à l'ORTF, ou quand les Perses passaient à l'ORTF, il y avait aussi beaucoup de monde. Mais il y avait beaucoup moins de postes, mais ça n'a jamais servi de baromètre pour les gens qui font les programmes.
Les Perses est considéré comme une folie absolue.
Mais ça reste dans l'histoire de la télévision.
Ah oui, mais voilà, comme un symbole de quelque chose et d'une bonne intention. C'est ça qui est merveilleux.
Si vous me permettez, Serge Tisseron, je voulais juste vous poser une question à propos de certains psychologues qui pensent que les images violentes ont une vertu cathartique et qu'elles permettent notamment aux enfants de réaliser leurs fantasmes dans l'imaginaire. Qu'est-ce que vous pensez d'une
Je pense que ce mot de cathartique est un piège et qu'il faudrait absolument le bannir du vocabulaire, surtout autour de la question de nos relations aux images. Alors pourquoi ? Parce que les événements qui sont regardés par les enfants ne concernent pas l'histoire de leurs ancêtres. Hein. Ce sont des choses, des feuilletons américains ou japonais, peu importe, mais en tout cas ça ne renvoie en rien à l'histoire de la communauté. Il n'y a pas le peuple rassemblé puisque les enfants sont souvent tout seuls devant l'écran. Donc justement, tout ce qui concerne la catharsis au sens aristotélicien, c'est-à-dire de pouvoir vibrer avec les autres, ça n'existe pas, c'est la solitude face à l'écran. Puis troisième chose, les deux émotions qui étaient l'objet de la catharsis pour Aristote, la pitié et la crainte, eh bien, elles sont chassées des écrans au profit de quoi ? Au profit du dégoût, de l'hyperviolence, de l'agression perverse, de la jouissance à faire souffrir, donc toute chose qui était totalement absente du théâtre des tragiques grecs. Donc c'est une erreur totale de parler de catharsis.
Alors justement, autre point, et Geneviève Guichenet l'a en partie souligné tout à l'heure, la télévision...
Là, elle ne sera pas changée si on montre des héros positifs ou des actions positives à
Alors,
la télévision.
Allez-y, Serge
Tisserot. C'est la confusion des genres. Ah. Aujourd'hui, la télévision n'est plus un flux dans lequel on peut à tout moment savoir précisément à quoi on a affaire. Vous savez, il y a encore 15 ans, il y avait des fenêtres d'actualité, des fenêtres de fiction, des fenêtres de publicité. Aujourd'hui, tout est mélangé. Il y a des émissions de variété où on invite des personnages politiques, et c'est même pas pour les inviter à parler politique, c'est pour les inviter à parler de leur vie intime ou de faits divers. Il y a des actualités qui sont censées nous montrer du document, mais on sait maintenant qu'il y a des documents qui sont fabriqués, d'ailleurs même en images de synthèse, et puis on sait aussi qu'il y a parfois des hommes politiques qui mentent effrontément, comme autour des armes de destruction massive, donc on nous présente pendant des jours et des jours des documents comme absolument fiables, produits par la CIA, puis on apprend un mois après que c'était des fiction, donc confusion. Il y a la confusion dans la publicité, ça le CSA sait bien que la publicité s'immisce partout, que la publicité c'est pas dans les fenêtres publicitaires. Mais
même dans le journal télévisé
même
d'ailleurs.
Même dans le journal télévisé, il y a des séquences de publicité cachées, il y en a...
Canal Académie.
On retrouve Jessica Baudet.
Suite de notre émission consacrée donc à la violence à la télévision et aux conséquences sur les jeunes en particulier. En France, c'est le CSA qui s'occupe du respect de la loi. Il veille en tout cas à ce que justement les jeunes ne soient pas soumis à des images trop violentes à la télé. Et de l'aveu même de son président, donc Dominique Baudis, et vous l'aviez dit tout à l'heure, Geneviève Guichenet, les pouvoirs qui lui sont reconnus sont difficilement applicables. Les mises en demeure d'un programme sont interprétées un peu comme une censure contre les téléspectateurs. Quant aux contraintes financières, aux sanctions financières et pénales, elles sont inapplicables. Alors qu'est-ce qu'on peut faire justement pour contraindre un diffuseur à réviser sa copie, Geneviève Guichenet ?
D'abord, il y a plusieurs sortes de diffuseurs. Il y a les diffuseurs privés et les diffuseurs publics. Le diffuseur public, il a un rôle, il a une sorte de contrat. Le diffuseur public avec les téléspectateurs, le paiement de la redevance.
Mais je veux dire, il faut cesser avec cette démagogie qui consiste à dire votez pour moi, soutenez-moi et je vais changer la télévision. Il faut arrêter avec ça. Il faut créer des actions associatives partout où c'est possible. Il y a par exemple au Canada une éducation aux images formidable qui est faite par le secteur associatif. Ils n'ont pas attendu au Canada que l'éducation nationale ou la télévision ou je ne sais qui s'en empare. Ils le font eux-mêmes. Il faut aujourd'hui bricoler et notamment on a un outil pour ça, c'est Internet. Grâce à Internet, les gens qui font des choses peuvent le faire savoir. On a un autre outil, c'est des organismes associatifs qui s'intéressent aujourd'hui à l'éducation aux images. Il faut que partout, les parents qui ont envie que les choses bougent, rencontrent d'autres parents, changent leur attitude par rapport à leurs enfants, parce que malheureusement, trop souvent, les parents voient leurs enfants comme des petites créatures fragiles à protéger, alors qu'autour des images, tout le monde est dans le même bain. Hein, nous baignons tous dans ce climat d'images quand même assez souvent délétère. Tout le monde est dans le même bain. Et puis, il faut dire et répéter aussi qu'il y a pas de fatalité, c'est pas parce qu'un jeune regarde beaucoup la télévision et qu'il regarde beaucoup de programmes violents qu'il va devenir violent. Il y a un petit pourcentage de jeunes qui regardent beaucoup de programmes violents qu'ils deviennent, mais c'est pas que la faute des programmes violents, c'est encore la faute aussi de leur environnement familial, des conditions socio-économiques, de beaucoup de choses. Donc il faut pas que les parents baissent les bras, il faut pas que les parents disent la télé elle est plus forte que nous, ça c'est une démission et il y a aucune raison aujourd'hui de démissionner. L'important c'est pas du côté de la production, on a pratiquement pas de pouvoir, c'est du côté de la réception. Il faut vraiment travailler aujourd'hui le plus possible la réception.
Merci à vous deux d'avoir participé à cette émission.
Très courte.
très courte, Geneviève Guichenet. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent saisir les médiateurs de France Télévisions à propos des programmes et du journal télévisé. Quelle est l'adresse de du site de France Télévisions, Geneviève
Guichenet ? Sur le site internet www.france2 ou France 3 ou France5.fr. Et là, il se laisse guider, il y a des liens.
Merci pour cette précision. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous recommande la lecture du livre de Serge Tisseron, Enfants sous influence, les écrans rendent-ils les jeunes violents, publié aux éditions 10-18, ainsi que l'ouvrage de Jean Cluzel, Téléviolence, publié chez Plon.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.